Parole de paix sur RCN, Stéphane Tabourin.
Dans un contexte mondial de guerres multiples et de crises climatiques majeures, et alors que nous nous enfonçons dans une société de plus en plus autoritaire, de surveillance, de contrôle et de violence, Parole de paix vous propose un magazine humaniste d'information, d'analyse et de discussion. Autour du micro, des associations nancéennes pour vous proposer un regard sur l'actualité, un regard sur le monde tel qu'il est, dans un but d'avoir un monde meilleur. Notre collectif échange toujours autour des conditions nécessaires à la paix, à faire humanité, mais aussi sur des conflits, des guerres, leur préparation. Des sujets que nous discutons et que nous voulons partager avec les auditeurs et auditrices, parce que tout ce qui touche à l'humain nous concerne toutes et tous. Dans cette émission, nous parlerons, le sujet central sera SOS Palestine, la situation en Palestine, la situation à Gaza, la crise de risque de génocide et puis tout ce qui se passe pour la population. Autour des micros, nous avons justement Alain de l'association France-Palestine Solidarité.
Bonjour.
Bonjour Alain. Nous avons aussi Brigitte. Aussi de l'AFPS.
Également de l'AFPS et puis de la Ligue des droits de l'homme et du syndicat des avocats de France.
Moi, Stéphane, du mouvement de l'objection de conscience, et c'est pas très poli en dernier, nous avons aussi une invitée autour des micros, une citoyenne nancéenne, une mère d'élèves du Haut du Lièvre, parce que nous allons évoquer dans les brèves la question des fermetures de classes sur le quartier du Haut du Lièvre, qui est aussi une violence. Et donc nous accueillons Enfiat. Bonjour Enfiat.
Bonjour.
Et ben sans plus attendre, nous allons commencer comme d'habitude par des brèves. C'est même moi qui commence. Je garde le micro. Pour le mouvement de l'objection de conscience et également pour 13 autres associations, parmi lesquelles aussi des syndicats, des partis politiques, et puis des associations telles que ATTAC, l'association des médecins français pour la prévention de la guerre nucléaire. Alors, 14 organisations se sont réunies pour proposer mardi 20 février, 19h30, accueil, 20h, une conférence. Ça sera à la MJC Pichon, 7 boulevard du Recteur Seine, à Nancy. Donc, conférence débat, le thème c'est « Armes nucléaires, une menace intolérable pour l'humanité ». Si une bombe atomique tactique tombait sur Nancy, quelles conséquences pour les Lorrains? Voilà l'entrée. Et nous aurons deux conférenciers de talent et de renom. Donc Abraham Béard, qui est président de l'Association des médecins français pour la prévention de la guerre nucléaire, et Caroline Brandao, de la Croix-Rouge française, responsable nationale du droit international humanitaire. Donc les 14 associations, organisations plutôt, je vous l'ai dit, ça va de la Confédération paysanne à Sud Solidaire, Mouvement de la paix, le MAN, le MOC bien sûr, et puis Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, le NPA, voilà, il y a 14 en tout. Donc je répète, c'est le 20 février, 19h30, MJC Pichon à Nancy, armes nucléaires, une menace intolérable pour l'humanité. À noter. Et je vous rajoute que nous aurons une émission avec aussi Caroline Brandao, donc de la Croix-Rouge française. Nous ferons une émission avec elle un peu plus tard dans notre programmation. Donc voici pour cette brève. Brigitte, tu veux nous parler du Parlement de rue.
Oui, tout à fait. Le Parlement de rue, ce sera une représentation théâtrale dans la rue le 22 juin 2024. Qui va impliquer de très nombreuses personnes, de nombreuses associations, des exilés, donc des étrangers, des diverses organisations qui sont en train d'élaborer, donc à partir des récits de vie des personnes exilées, une représentation théâtrale qui aura lieu dans l'espace public à Nancy. Alors on ne sait pas encore où ce Parlement de rue va avoir lieu, parce que toutes les choses sont en cours d'élaboration. Donc si vous êtes intéressé pour participer, on est déjà plus d'une soixantaine à participer. avec différentes commissions, etc., pour mettre en place eh bien, ce parlement de rue, qui va être un moment extrêmement fort où on restitue en fait la parole des étrangers et des étrangères. C'est particulièrement important dans notre contexte social et politique si délétère, de repli sur soi. La prochaine réunion aura lieu à la Maison Bonnet le 8 février, c'est-à-dire demain à 18h. Si vous êtes intéressé pour participer, vous n'êtes pas obligé de venir demain à la réunion, mais en tout cas, si ça vous intéresse, il y a une adresse mail, parlement de rue tout attaché .nancy@gmail.com pour dire si vous êtes intéressé. Donc, vous pouvez être soit artiste, parce que vous pouvez contribuer pour faire les décors, ou les costumes, ou la musique. Enfin, on a besoin de toutes les bonnes volontés, ou si vous avez des idées pour trouver des financements ou pour donner à cette manifestation un écho important. Donc, si vous pouvez participer, moi je sais pas, à une communication avant, pendant, après, etc. Et puis même si vous avez des idées en général ou si ça vous intéresse, n'hésitez pas à écrire à cette adresse et quelqu'un vous répondra et vous expliquera à quel atelier vous pouvez participer. Voilà, en tout cas, on vous tiendra informé à nouveau, notamment pour les dates, lieux, oui, les heures, etc. Et ce qu'on voudrait faire, c'est que ce soit dupliqué ou répliqué à d'autres moments, que ça ne soit pas qu'un seul moment, vraiment que ça ait un écho très fort. Donc tout ça, c'est en construction et je pense que ça va être vraiment un moment tout à fait particulier. Ça a déjà eu lieu dans d'autres villes, donc vous pouvez regarder dans d'autres villes où ça a eu lieu, quelle forme ça a pris et donc on travaille activement sur ce projet
qui aura lieu en juin. Ça sera en juin, 22 juin, et le travail a commencé en janvier. Et tu peux redonner l'adresse mail, parlementderue.tout-attaché@.
Alors, parlementderue.nancy. @gmail.com. Les associations qui participent, c'est la CIMA de la Ligue des droits de l'homme, mais je vais en oublier, c'est sûr, parce qu'on est vraiment très nombreux. Il y a MDM, Médecins du Monde, RESF, enfin vraiment toutes les associations qui s'intéressent à la cause des étrangers vont participer. Si vous n'avez pas retenu, parlementderue.nancy@gmail.com, adressez-vous à la CIMAD, la Ligue des droits de l'homme, RESF, même le SAF également participe. Enfin voilà, il y a énormément d'associations qui vont participer.
Ah ben très bien, donc on redit parlementderue.nancy@gmail.com pour avoir des informations, et je pense que dans les émissions de Parole de Paix à venir, on donnera des étapes, on fera un peu le point sur ce beau projet qui se déroulera à Nancy le 22 juin. Merci. Troisième petite brève, alors on va parler la paix, notre émission s'appelle Parole de Paix, la paix c'est pas uniquement l'absence de guerre, mais c'est aussi les violences qu'on fait subir aux gens, au peuple et à l'intérieur même d'un pays, une partie peut faire souffrir une autre, et on va parler de l'école, des services publics en général et de l'éducation nationale en particulier, parce que c'est très 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 dur depuis des années, et puis ça s'est accéléré avec le gouvernement Macron. Il y a une vraie difficulté dans les services publics. On voit l'hôpital est en lambeaux. Il y a des choses à défendre. Et une information locale, il y a des suppressions de postes, suppressions de classes dans les classes du département de Meurthe-et-Moselle. Et spécifiquement sur le quartier du Haut du Lièvre, d'où émet cette station Radio Caraïbes Nancy. Et des parents, des enseignants, des enfants ont protesté vendredi 2 février. Et une manifestation importante, il y avait 300 personnes, beaucoup de parents, beaucoup d'associations aussi du quartier. J'ai vu qu'il y avait aussi les Francas, qui sont les voisins de la radio, qui étaient présents, des associations du quartier. Tout le quartier s'est mobilisé autour de ces écoles, parce que le quartier du Haut du Lièvre est particulièrement saigné, entre guillemets, parce que 6 écoles et l'inspecteur de l'académie avait proposé 6 écoles, 6 suppressions de classe, une suppression de classe dans chacune des écoles. Et alors, nous avons au téléphone avec nous Anne Hautenauve, co-secrétaire départementale du syndicat d'enseignants, le premier syndicat des enseignants, la FSUS NUIPP. Anne, tu es avec nous ?
Oui, je suis là.
Bah, bonjour.
Et bonjour.
On a aussi autour des micros Anfiat, qui est maman d'élèves. Je crois qu'elle est élue aussi dans les conseils d'école.
Oui. Hein, oui.
Alors présente-toi un petit peu, Anfiat. Toi, tu es.
Du coup, moi, je m'appelle Maddy Swalehi Anfiat et je suis représentante des délégués de parents à l'école élémentaire Buffon.
Très bien. Et donc, les parents, comment ils ont reçu cette nouvelle des fermetures ?
Alors, c'était un coup de massue, parce que ça fait déjà des années et des années qu'on revendique la suppression des postes.
Ouais, vous vous opposez,
oui. Oui, on s'oppose. Et puis, on avait fait l'année dernière un blocage de l'école.
Oui, parce qu'il faut peut-être dire aux éditeurs que l'école Buffon, alors là cette année il y a 6 suppressions de postes qui ont été proposées, l'inspection est revenue sur une, donc il y a à l'école maternelle
Buffon, oui.
il y a plus de suppressions prévues, mm-hmm. mais il en reste 5, et vous êtes à l'école élémentaire Buffon. qui a déjà subi combien, 2 ou 3 suppressions de postes les années précédentes.
Oui.
L'année dernière il y avait déjà eu une suppression de classe.
Mm-hmm, tout à fait.
Alors c'est assez dramatique.
Et puis, quand on va à la rencontre des représentants, en fait, on a été au DESEN.
Ouais, DESDEN.
Ouais. Et
alors, c'est l'inspection académique, on va dire, pour les auditeurs.
Oui. Et on nous a fait comprendre que c'était une question d'argent, si je peux dire clair comme ça. Question d'argent et d'effectifs. On leur a dit que dans le quartier, il y a une réhabilitation des appartements. Donc, les appartements vont être livrés, là, cette année, en avril, si je ne me trompe pas. Et on leur a dit d'attendre d'abord, avant de déloger les gens.
Oui, parce que les Nanciens ou les gens qui nous écoutent encore plus loin de Nancy connaissent peut-être au moins de nom le quartier du Haut du Lièvre, qui est un quartier en haut de la ville de Nancy, mm-hmm. et qui est en travaux depuis au moins, au moins 10 ans. Mais là, les travaux sont à un moment fort où pour faire les travaux, on a fait partir les gens, on les a mis ailleurs de façon provisoire, et comme tu le dis, on peut se tutoyer, mm-hmm. comme tu le dis, là, les gens vont commencer à revenir ou des nouveaux habitants vont arriver. Et donc les parents disent on va pas supprimer des classes alors qu'on sait il y a plein d'appartements vides parce qu'il y a des travaux, mm-hmm. mais que on voit pousser de tous les côtés du quartier des nouveaux bâtiments.
Oui.
Donc donc des gens vont revenir et vous dites alors que répond l'inspecteur d'académie quand on lui dit mais c'est pas très malin, pas très de fermer des classes et puis pour les rouvrir dans un an ou dans 2 ans ou dans 3 ans. Comment réagit l'inspecteur d'académie quand on a ce type de discours?
Ils sont sourds.
Ouais.
Ils sont sourds, aveugles et muets.
Ouais. Même analyse pour le syndicat d'enseignants FSUS-NUPP. Anne, vous avez aussi fait des démarches parce que la manifestation du 2 février dernier, il y avait au moins 4 organisations de représentants des personnels des enseignants. Quoi. Il y avait la FSUS-NUPP, était présent aussi Sud Éducation, je crois.
Oui, et c'était soutenu par le SGEN CFDT et le SE UNSA qui n'étaient pas présents, mais qui soutenaient l'action.
Et alors vous, est-ce que vous aussi, vous avez, comme les parents du quartier du Haut-du-Lay, est-ce que vous avez aussi un peu essayé de secouer notre administration?
Pas un peu. On a beaucoup essayé. D'abord en groupe de travail où on a expliqué la situation, les logements qui allaient être reconstruits, les élèves qui allaient revenir, la déstabilisation que ça introduit dans les équipes, parce qu'une fermeture de classe, c'est aussi un enseignant présent dans l'école depuis longtemps qui doit quitter l'école. On a vraiment essayé de faire valoir tout ça sans succès. On a voté contre le projet de carte scolaire présenté ensuite en CSASD et on a refusé de siéger en CDEN puisque c'est une mascarade.
On nous fait venir mais sans
changer le projet malgré nos arguments et sans tenir compte du vote qui est fait. Donc oui, on a essayé, mais effectivement... ils ne veulent rien entendre et c'est bien un choix politique parce que le quartier du Haut-du-Lièvre avait déjà connu des travaux il y a quelques années et aucune fermeture n'avait eu lieu pendant ces travaux parce que à l'époque le DAZN avait pris l'engagement de dire il y a des travaux, il y a des mouvements de population mais qui sont provisoires, on bloque, on ne ferme pas. Et là, c'est tout le contraire. Non seulement, c'est pas on ferme pas, mais en plus, il ne veut même pas entendre quand on lui présente les documents qui disent que les classes vont rouvrir. Il s'en fiche.
C'est donc une gestion purement comptable d'un petit boutiquier, allez, j'ose le mot, qui est avec une politique violente vis-à-vis de l'école et y compris avec un quartier comme le quartier du Haut-du-Lièvre de Nancy, qui est comme un quartier classé REP. Plus, qui a l'indice, l'indice social.
De positionnement social le plus bas de tout le département, l'école Buffon, la plus basse, mais surtout le quartier, effectivement, de toute façon, c'est le seul quartier REP+ du département. Donc oui, c'est de toute façon, c'est une casse de l'école, mais tu l'as dit, une casse des services publics, mais on est en train de détruire l'école comme on a détruit l'hôpital. Et en plus, c'est une négation totale du fait que ce soit un quartier en éducation prioritaire. Enfin, ce mot éducation prioritaire, ça veut plus rien dire. En tout cas, c'est clairement plus prioritaire pour l'éducation nationale.
Dans les années 80-90, on disait, quand il y a eu la création de l'éducation prioritaire, on disait le slogan, c'était donner plus à ceux qui ont moins. Et maintenant, c'est prendre, là aujourd'hui, avec ce gouvernement très violent, c'est prendre plus à ceux qui ont moins.
Oui, malheureusement.
Nous, ce qu'on a peur, c'est que les classes soient surchargées. Mmh. Et les enfants en difficulté, qu'ils n'ont pas, en fait, que les maîtresses ne voient pas les enfants qui sont, enfin, les enseignants ne voient pas les enfants qui sont en difficulté. Mmh. Et les prendre en charge. Mmh. Du coup, ça nous inquiète un peu. Et sachant que en septembre, donc il y a des arrivants. Et il faut pas en fait qu'ils se basent aussi sur le nombre de natalités sur le plateau, parce que enfin ça.
Oui, on peut pas forcément bien servir de ça. Et pendant la manifestation, il y a aussi, moi je trouve que c'est magnifique, hein, en tout cas pour, je parle au nom de Parole de Paix, c'est magnifique que les gens, les personnes prennent en charge, en prennent en main leur propre, ce qui leur arrive. Il faut surtout pas se résigner parce que le problème pour l'hôpital, moi pour tout, parce qu'ils cassent, mais ils cassent et ils comptent sur le fait que les gens vont rien dire et qu'on va se dire, ah bah c'est comme ça, on n'y peut rien, ah y a pas d'argent, si, y a de l'argent, ils ont beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'argent en France qui est donné.
Il y a un choix.
Et oui, il y a des choix. 93 milliards pour l'armée, pour l'armement.
La ministre en est l'illustration. Oui, donc quand même, c'est fou, la ministre de l'Éducation nationale met ses enfants dans le privé.
Gabriel Attal
tient des propos scandaleux à l'égard de l'enseignement public. Donc faut pas s'étonner qu'ils détruisent parce que c'est un choix de classe,
hein, de privilégier l'école privée.
L'école privée, et on s'en fout des familles les plus pauvres. Cet indice est révélateur, mais justement on devrait mettre plus de moyens à cet endroit-là.
Oui. Moi je trouve que, vas-y Anne, tu voulais intervenir?
Oui, non, je voulais dire que c'est tout à fait ça, c'est un choix politique, on est bien effectivement dans la destruction de l'école publique, et là on parle que des suppressions de classes, mais il faut savoir qu'il y a plein de choses qui se dessinent en ce moment par rapport à l'école qui font très très peur, et qui dessinent clairement une école du tri social, une école qui va faire ce qu'il faut pour favoriser les enfants issus des classes favorisées, et qui va complètement laisser tomber les enfants des classes défavorisées.
Il faudrait qu'on fasse une émission complète rien que sur ce sujet-là, une fois. Là, on parlait spécialement de la manifestation et au nom de Parole de Paix, on peut dire bravo aux enseignants, et les enseignants doivent aussi rester toujours mobilisés. C'est important qu'ils se syndiquent. C'est important, et pour, côté parents, c'est important aussi qu'ils restent, qu'ils jouent collectif, qu'ils baissent pas les bras, qu'ils s'investissent dans les conseils d'école, qu'ils fassent entendre leur voix, parce que la voix d'un parent, moi j'ai entendu en Fiat vendredi, et ben ça mettait la chair de poule. Elle parlait fort, bien et clair, et bravo parents d'élèves. Et donc je pense qu'on peut dire aux autres parents d'élèves aussi de s'investir dans leur école, pas pour tout avaler, mais justement pour parce que c'est vos enfants, c'est l'avenir des
c'est
enfants du quartier.
Avenir.
Oui, c'est notre avenir à tous.
Mais c'est ce que j'avais dit à Monsieur le Maire. C'est ce que j'avais dit à Monsieur le Maire que il faut. En fait, ils investissent. Donc, les investissements, c'est où? C'est sur nos enfants. Donc, si ils font des bons investissements, donc il y aura des bons
réussites,
oui, des bons résultats.
Ouais.
Donc, soit ils investissent, soit ils investissent.
Ouais.
Il n'y a pas d'autre solution.
Oui, oui. Et donc c'est important de rester vigilant et actif. Encore une fois, merci à vous. J'avais entendu aussi un autre habitant du quartier qui avait pris le micro. Je crois que son prénom c'est Larbi, qui avait dit aussi, qui avait aussi interpellé les gens du quartier, qui avait dit attention les gens du quartier, c'est aussi important de voter, parce que plus on vote, plus on est pris au sérieux. Parce que un des soucis aussi qu'on a en France, c'est que les gens les plus en difficulté, et ben souvent ils laissent tomber.
Ceux qui sont élus qui font les choix.
Et voilà.
Et
les riches votent. Les racistes votent, et donc c'est important que les gens rediscutent entre eux et fassent leur choix leur choix de société. On a envie de vivre ensemble, et c'est l'intérêt de cette émission. Voilà. Donc je vous dis merci en Fiat. Ou est-ce que vous aviez encore un petit mot à rajouter? Et on va passer à la suite après.
Juste un mot, c'est que le quartier du Lièvre. On entend comme ça, ça fait peur. Mais là, les enseignants qui arrivent, ou les personnes qui arrivent pour travailler sur le plateau 2E, quand on leur dit, vous allez sur le plateau 2E, vous allez travailler dans les écoles, ils pleurent, ils n'ont pas envie de venir. Mais quand ils viennent, ils voient un quartier qui est chaleureux, qui est respectueux, qui n'a pas de soucis. Et quand on leur dit... il faut quitter le quartier, il pleure.
Il pleure à nous.
Ouais.
Donc, il faut pas nous oublier.
Ouais. Bon mot de conclusion.
On dit ça aussi de la Lorraine, que les gens qui sont mutés, les fonctionnaires qui sont mutés en Lorraine, pleurent en arrivant et pleurent en repartant. Parce que les Lorrains sont des gens fidèles, et on établit des liens forts.
Voilà. Merci.
Merci,
et on reparlera de l'école et de l'école prioritaire, je pense, une émission complète.
Merci Anne.
Oui, merci Anne. Ça, toi aussi, est-ce que
de
tu avais
rien,
un petit mot?
Non, juste en tant qu'enseignante du quartier, je confirme ce que dit Enfiat. Quand on y est, on n'a pas envie de le quitter parce qu'on y est bien.
J'y suis aussi.
Il faudra faire une émission effectivement sur ce sujet. Ça me paraît très important.
Ouais. Alors là, on a du retard dans notre timing. On a un gros dossier après. On a encore deux petites brèves. Brigitte, tu voulais nous parler d'un concert.
D'un concert, Salle Poirel. C'est Diwan qui
l'association.
L'association Diwan qui a attiré notre attention sur un concert de Mohamed Najem Quartet. Mohamed Najem est un musicien palestinien ce concert promet effectivement d'être particulièrement intéressant, avec un tarif d'ailleurs réduit pour un certain nombre de personnes. Je ne vais pas rentrer dans le détail. En tout cas, c'est le 10 février 2024 à 20h, Salle Poirel.
Soutenu par la FPS également.
Soutenu par la FPS.
Et puis, Anna, tu veux nous parler des fameuses actions BDS. On a déjà fait des émissions, mais il y a longtemps, en fait. Maintenant, peut-être qu'on peut en faire une.
Alors,
fois.
Je rappelle ce que c'est que le BDS. Le BDS a été lancé par nos amis palestiniens. BDS, c'est trois lettres. C'est le début de trois mots. C'est boycott, désinvestissement, sanction. Et là, une action se prépare pour samedi prochain. Donc, on sera le 10, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, le hein, 10, voilà. 10 février.
Samedi 10 février.
À 14h.
Pour une, à 14h. Voilà. On se donne rendez-vous place Charles III. Alors, pourquoi faire? Eh bien, on va se projeter devant tous les magasins Carrefour de centre-ville à Nancy. Alors, pourquoi les magasins Carrefour? Parce que Carrefour a des liens étroits avec des sociétés palestiniennes et investit dans les colonies. Bon, que Carrefour fasse du commerce en Israël, à la limite, je dirais presque, c'est son affaire. Mais là, en l'occurrence, c'est dans les colonies palestiniennes. Et donc, ça fait un moment déjà qu'on lance ces actions pour faire en sorte que Carrefour se retire, parce que en faisant cela, Carrefour est complice de l'occupation de la Palestine. Et alors, pire, depuis, on a appris, oui, occupation illégale, hein, illégale et condamnée par le droit international, par l'ONU, etc. Et alors là, pire encore, Carrefour fournit de la nourriture et des rations à l'armée israélienne, parce que c'est vrai qu'ils meurent de faim, il y a la famine à Gaza, mais eux, ils ont besoin que Carrefour les aide, quoi, enfin. Donc voilà, deux raisons pour lesquelles on lance ce week-end, sur tous les, il y en a une dizaine, à des magasins Carrefour en centre-ville de Nancy, avec toute une série d'associations qui participent à la bataille pour le cessez-le-feu à Gaza. Donc c'est ce week-end, 14h, rendez-vous, place Charles III, et on se dispatchera devant les différents carrefours.
Ouais, c'est ça, oui, je voulais savoir le mode d'action.
Avec des pétitions, voilà. Avec des tracts qu'on distribuera aux passants pour expliquer, hein, des pétitions, des affiches, etc.
Voilà. Pour dire à Carrefour qu'on ne soutient pas, qu'on n'est pas d'accord avec son action.
Voilà, alors il y en a d'autres, mais là on a choisi Carrefour parce que c'est le plus évident.
Hein. Emblématique.
Voilà.
Je voulais juste dire deux mots sur une famille qui est menacée d'expulsion à Gaza. Vous avez bien entendu.
Ah oui.
Ils sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Ça se passe pas en Lorraine, mais ça se passe à Rennes, en Ille-et-Vilaine.
Ille-et-Vilaine.
Ce sont des gens qui sont là depuis plusieurs années. Ils parlent parfaitement français. Ils sont profs avec des enfants. Ils ont pris en 2023 une obligation de quitter le territoire français. Tout le monde pensait qu'elle serait levée suite à la situation totalement dantesque à Gaza. Eh bien, pas du tout. La préfecture reste droit dans ses bottes. Elle envisage donc d'expulser cette famille tout en disant tout en reconnaissant que ils pourraient
pas
aller à Gaza. Par contre, ils peuvent aller en Cisjordanie. Ils peuvent faire ou alors ils peuvent aller en Égypte. Ils seraient légalement admissibles, soi-disant, en Égypte, alors que l'Égypte ne les acceptera pas. Ils n'ont pas à être accueillis en Égypte, surtout que Al-Sisi a bien dit qu'il ne voulait pas de Palestiniens en Égypte, donc il n'y a aucune raison que cette famille soit accueillie en Égypte. Voilà, donc je voulais attirer votre attention sur le fait que la France, sur cette question, et on va en parler dans un instant, n'est pas logique et n'a pas une position ferme, ce que l'on attend d'elle. Et une position humaine,
Logique,
tout simplement.
Mais c'est même pire, la France se déshonore totalement. C'est les positions inhumaines, quoi.
Alors, on va reparler de tout ça, de ce qui se passe à Gaza, des derniers événements. Après une pause musicale, on va écouter HK, qui a sorti une chanson en janvier 2024. Donc, la chanson s'appelle « Il vous appartient de vivre ». Le 1er novembre 2023, sachant que sa vie ainsi que celle de ses proches était en péril, le poète et professeur de littérature de Gaza, Refat Al-Harir, publie sur ses réseaux sociaux ce qui va devenir son dernier poème, commençant par ces mots, alors je le dis pas en anglais, si je dois mourir, vous devez vivre pour moi. Et le 6 décembre 2023, il est effectivement tué chez lui par un bombardement de l'armée israélienne avec son frère, sa sœur et leurs enfants. Donc HK a mis en musique la traduction française de son poème pour lui rendre hommage, comme il le demandait. Donc il faut raconter son histoire, leur histoire, notre histoire. Ça s'appelle « Il vous appartient de vivre ». «
C'est écrit quelque part que je dois mourir. Il vous appartiendra de vivre pour raconter mon histoire, pour vendre ces choses qui m'appartiennent et acheter une étoffe et des ficelles. Faites en sorte qu'elles soient bien blanches, avec une longue traîne, afin qu'un enfant quelque part à Gaza, fixant le paradis dans les yeux, dans l'attente de son père, partit subitement sans avoir fait d'adieu à personne, pas même à sa chair, pas même à son âme, pour qu'un enfant quelque part à Gaza puisse voir ce cerf-volant, mon cerf-volant à moi, que vous aurez façonné, qui volera là-haut, bien haut, et que l'enfant puisse un instant penser qu'il s'agit là d'un ange revenu lui apporter de l'amour. S'il était écrit que je dois mourir, alors que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire. Il voudrait que l'on t'oublie,
Gaza, Gaza.
Que ton nom soit interdit,
Gaza, Gaza.
Toi l'enfant de Palestine,
Gaza, Gaza.
Qui se relève et qui s'obstine,
Gaza, Gaza.
De tout ton cœur, de tout ton être,
Gaza, Gaza.
À ne jamais disparaître,
Gaza, Gaza.
De cette terre qui t'a vu naître,
Gaza, Gaza.
De ce pays, de tes ancêtres,
Gaza, Gaza.
Aujourd'hui mon cœur est lourd,
Gaza, Gaza.
Aujourd'hui le monde est sourd,
Gaza, Gaza.
Et laisse faire les actes infâmes,
Gaza, Gaza.
Enfant qu'on tue ou qu'on affame,
Gaza, Gaza.
Qui fait semblant de ne pas voir,
Gaza, Gaza.
Qui feint de ne pas savoir,
Gaza, Gaza.
A perdu son humanité,
Gaza, Gaza.
Son honneur et sa dignité,
Gaza, Gaza.
Tu te relèveras, c'est sûr,
Gaza, Gaza.
Tu survivras à tes blessures,
Gaza, Gaza.
Et tu verras haut dans ton ciel,
Gaza, Gaza.
Au bout d'une longue ficelle,
Gaza, Gaza.
Comme un ange qui flotte au vent,
Gaza, Gaza.
Une toile, un cerf-volant,
Gaza, Gaza.
Inscrit dessus en toutes lettres,
Gaza, Gaza.
Les derniers mots de ton poète,
Gaza, Gaza.
S'il est écrit que je dois mourir,
il vous appartiendra de vivre.
Il vous appartiendra de vivre.
Que ma mort apporte l'espoir,
que ma mort apporte l'espoir,
que ma mort devienne une histoire,
que ma mort devienne une histoire.
Midi, parole de paix sur RCN.
Et dans Parole de paix, cette semaine, le thème c'est SOS Palestine. La situation est plus que catastrophique et on désespère. La population française de plus en plus prend conscience de l'importance, mais apparemment pas nos dirigeants. Manifestation après manifestation à Nancy, à l'appel de la FPS, on y est, assez nombreux et au niveau international, on n'a rien. Au niveau national, nos gouvernantes font rien ou pratiquement rien, on en parlera après. Et voilà, donc aujourd'hui vous nous présentez Alain et Brigitte, deux entrées sur oui. L'actualité.
Voilà, alors en deux mots, on va pas revenir, mais une situation donc catastrophique. La Cour internationale de justice pointe le risque de génocide qu'avaient déjà pointé toute une série d'autres organisations, associations dans le monde. On en est à pratiquement 30 000 morts aujourd'hui, sans compter les gens qui sont sous les décombres qu'on découvrira par la suite. 63 000 blessés et Christophe Oberlin, qu'on avait invité cette semaine, ce chirurgien qui va à Gaza régulièrement, nous disait que des gens vont mourir de leurs blessures obligatoirement parce qu'il n'y a plus les conditions pour pouvoir les soigner. Hein.
Et les gens sont amputés à vif, sans
anesthésie.
Non, mais c'est l'horreur. Et je comprends pas, juste un petit passage là, je comprends pas qu'il y ait pas plus d'indignité ou de colère, même dans les médias. Les médias, on nous parle d'autres guerres, plus. Il y a des bonnes guerres et des mauvaises guerres.
Est-ce que les Palestiniens sont considérés comme des êtres humains? C'est la question qu'il faut qu'on pose aujourd'hui. Oui.
Parce que 30 000 morts, c'est énorme.
Parce qu'en même temps, 1 300 000 déplacés, qui étaient déjà, d'ailleurs, qui ont été déplacés d'Israël, parce que 80% de la population de Gaza, ce sont des réfugiés. Donc 1,3 million de personnes déplacées qui ne savent plus où aller. Aujourd'hui, on leur dit faut aller à l'ouest, après leur avoir dit faut aller au sud. La ville de Gaza, Gazaville a été rasée. Khan Younes, la grande ville du sud, a été quasiment rasée. Aujourd'hui, il s'attaque à Rafah qui est coincé le long de la frontière égyptienne, et à Rafah s'entassent des dizaines de milliers de personnes. Hein. Donc voilà la situation. Alors dans ce contexte-là, on va pas en rajouter, mais dans ce contexte-là, il y a une décision extrêmement importante. C'est un moment historique. Je pense qu'il faut le dire comme cela. C'est les recommandations de la Cour internationale de justice qui avait été saisie par l'Afrique du Sud. Bravo à l'Afrique du Sud d'avoir eu ce courage. Et pour la première fois, une juridiction, la plus haute juridiction internationale, met en cause Israël. Et Israël se retrouve au banc des accusés, et ça c'est quelque chose qui ne s'était jamais produit jusqu'à présent. Alors peut-être Brigitte va nous parler donc justement de cette décision de la Cour internationale de justice, et puis on verra après que c'est pas anodin, même si certains nous disent que la Cour internationale de justice n'a pas pris de décision, c'est pas des obligations, mais en tous les cas, comme par hasard, dès le lendemain, une réaction au niveau international d'Israël et de ses soutiens pour mettre en cause la principale organisation de l'ONU qui apporte des secours aux Palestiniens à Gaza. Mais on va y revenir en une deuxième partie. Là, peut-être Brigitte peut nous expliquer un peu ce que c'est que la Cour internationale de justice et en quoi ces décisions sont importantes.
Alors, effectivement, merci. Merci d'avoir rappelé tout ce que tu viens d'indiquer, Alain. Le 29 décembre 2023, l'Afrique du Sud a saisi la Cour internationale de justice, qui est l'organe juridictionnel de l'ONU, qui a été créé en 1945, et qui juge les États. Donc c'est un État qui juge un autre État, qui demande à ce que un autre État soit jugé, en l'espèce Israël, sur la base de la Convention de 1948, pour la prévention et la répression du crime de génocide, qui a été signée donc par Israël. Donc pour une fois, Israël ne peut pas se défiler. Elle a été obligée effectivement de comparaître. C'est vraiment une grande première aussi. Hein. Alors c'est vraiment tout à fait historique déjà que l'Afrique du Sud est le symbole est fort, puisque c'est le pays qui a connu l'apartheid pendant aussi longtemps, qui saisit la Cour internationale de justice pour demander rejoint, hein, donc sur la base donc de la convention. Sur le génocide, donc on est uniquement sur la qualification de génocide, on n'est pas sur la qualification de crime de guerre ou de crime contre l'humanité, on est contre le crime le plus grave au niveau international, d'accord ? Dans la gradation des crimes, vous avez crime de guerre, crime contre l'humanité et génocide. Je vais vous expliquer dans un instant en quoi ça consiste, le génocide. Alors, l'Afrique du Sud ne s'est pas contentée de déposer une requête de 84 pages extrêmement bien articulée. Elle a fait une demande de mesures urgentes en expliquant qu'il y avait un risque imminent pour la population qui subissait donc ce génocide et qu'il fallait prendre au plus vite des mesures compte tenu des conséquences irréparables sur cette population. La Cour internationale de justice a pris très au sérieux cette requête, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que d'habitude, les requêtes devant la CIJ mettent du temps à être jugées. Ça met plusieurs années à être jugées. Or là, compte tenu de la demande de mesures urgentes, ça a été donc audiencé les 11 et 12 janvier, et une décision de justice a été rendue le 26 janvier 2024. Vous pouvez aller sur le site de la Cour internationale de justice, CIJ. Vous avez tous les textes en anglais et en français. Le français est une langue de travail au même titre que l'anglais. Donc vous aurez la requête. Vous avez l'ordonnance qui a été rendue, qui est tout à fait historique, ah oui, puisqu'il est reconnu, eh bien, qu'il y a un risque à l'encontre de la population palestinienne de génocide, et demande à Israël de prendre des mesures pour prévenir ce génocide, pour arrêter ce génocide, pour permettre à l'aide humanitaire de rentrer à Gaza, parce que c'est ça qui est absolument fou dans cette histoire, c'est que la population n'a aucun endroit où aller, elle est coincée, elle est totalement bloquée.
Il faut rappeler aux auditeurs que Gaza, c'est tout petit, hein, c'est 50 kilomètres du nord au sud pour 5-6 kilomètres de largeur,
oui,
c'est tout petit.
Avec la densité la plus importante.
Et là-dessus, s'entassaient auparavant presque 3 millions de personnes.
Tout à fait. Donc, accès à l'aide humanitaire avec l'obligation de déposer un rapport le 26 février 2024 pour dire quelles sont les mesures qu'Israël a prises. Donc, la Cour a reconnu deux choses absolument essentielles. C'est qu'il y a, et c'est ce qui permet de qualifier qu'on est face à un génocide, il faut des actes. Et il faut des intentions génocidaires. Et dans cette décision, il est rappelé en quoi il y a des actes montrent qu'il y a tous les indices d'un génocide. Il y a des destructions massives de populations. Il y a le fait qu'on empêche les personnes de vivre dans des conditions normales. Les structures sanitaires sont totalement détruites à Gaza.
Les hôpitaux.
Donc, la Cour s'est appuyée sur des rapports de l'ONU, de l'UNRWA, c'est-à-dire l'agence qui s'occupe des Palestiniens, du secrétaire général de l'ONU, qui est vraiment à la manœuvre hein, depuis le 7 octobre. Il ne ménage pas sa peine,
Antonio Guterres,
pour dire à quel point vraiment ce qui se passe est totalement scandaleux. Il a condamné les actes, bien entendu, du 7 octobre.
Oui.
Comme nous le faisons, aussi, bien entendu, mais la riposte d'Israël est vraiment terrible. Donc, les actes sont là.
On ne peut pas répondre à quelque chose d'horrible en faisant quelque chose d'encore plus horrible.
Tout à fait, c'est une punition collective qui est totalement interdite au regard du droit international. Donc, l'accès à l'aide humanitaire, l'accès à Gaza, par des enquêteurs internationaux également, a été demandé par la Cour internationale de justice de préserver les preuves également, pour faciliter les enquêtes. Et la Cour reprend certaines des déclarations à caractère génocidaire des responsables israéliens.
Des dirigeants
israéliens.
Et ce n'est
pas de n'importe qui.
Ah hein.
C'est du président de la République, c'est-à-dire Herzog, qui pourtant, jusqu'à maintenant, a été considéré comme quelqu'un d'assez modéré. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de l'extrême droite. Il a réagi après les attaques du 7 octobre en disant que il n'y avait pas d'innocents à Gaza, qu'il appartenait à la population gazaoui à se révolter contre le Hamas, qu'à partir du moment où ils ne l'ont pas fait, eh bien, ils sont tous responsables. C'est absolument inouï. Ce sont des
même
déclarations
inouïes. Même les milliers d'enfants
inouïes.
Qui sont morts.
Et voilà. La moitié des enfants, les enfants qui naissent, les enfants de quelques mois, etc., seraient responsables. Et puis, bien sûr, il y a le ministre de la Défense qui a eu des propos absolument terribles, puisqu'il a dit, 2 jours après, donc le 7 octobre, nous allons tout bloquer. C'est-à-dire plus d'électricité, plus de carburant, donc pour faire marcher les hôpitaux, etc., plus d'eau, plus de nourriture. Nous avons affaire à des animaux humains. Tout ça, ça a été repris par la Cour internationale de justice pour dire que il fallait arrêter cette situation qui est absolument inouïe. C'est vraiment l'enfer sur terre. Le jour même, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé qu'il n'exécuterait pas. Donc, il appartient désormais au Conseil de sécurité de l'ONU de faire le nécessaire pour que des sanctions soient prises à l'encontre d'Israël.
Et aux grands pays.
Et tous les autres
à toutes les puissances.
Pays ouais. qui ont signé cette convention donc pour la prévention et la répression du génocide, c'est-à-dire la France, tous les pays occidentaux, tous les signataires de cette convention. Nous sommes tous... responsable de l'exécution de cette décision qui, contrairement à ce que dit Israël, a force obligatoire. C'est une décision de justice qui doit être exécutée. À défaut, c'est l'effondrement de l'ordre international. C'est l'effondrement de l'ONU. C'est l'effondrement du droit international et du droit international humanitaire.
Et oui, donc nous, on peut encore, comme citoyens, citoyennes, agir sur nos gouvernements, agir sur l'Europe aussi. C'est assez un scandale. La France a été, ces derniers jours, d'être responsable de l'Europe. C'est tournant la direction de l'Europe. Et rien.
Alors, c'est pour ça, justement, tu as raison. C'est pour ça que, depuis le début des bombardements à Gaza, la FPS, avec toute une série d'autres organisations, par exemple, sur Nancy, c'est 23 organisations, syndicats, associations, partis politiques, qui organisent régulièrement, quasiment toutes les semaines, des actions pour peser sur notre gouvernement, pour que notre gouvernement prenne... Alors, qu'est-ce qu'il peut faire, le gouvernement ? Écoutez, les Français le savent pas. Mais il y a des coopérations scientifiques, des coopérations économiques, des coopérations militaires avec Israël. Les bombes qui tombent sur Gaza, il y en a une partie qui est fabriquée par la France et vendue par la France. Il faut que la France arrête de fournir, et les États-Unis, bien sûr, qui sont le principal fournisseur. Là, aujourd'hui, Israël ne pourrait plus tenir dans son offensive si les Américains fournissaient pas les armes. Donc voilà, c'est une vraie question. Alors... On peut donc agir.
Boycotter,
comme l'action de boycott dont on a parlé tout à l'heure.
J'ai vu qu'il y avait des gens qui aussi demandaient le boycott, de refuser la participation d'Israël aux Jeux Olympiques. Mais c'est vrai que quand c'est les Russes, quand d'autres le font, et c'est normal, il faut sanctionner.
Oui, oui.
Mais là, on a l'impression qu'il n'y a aucune sanction.
Complètement. Alors... encore plus scandaleux, Brigitte, tu disais que Israël ne veut pas tenir compte des décisions de la CIJ, mais encore plus scandaleux, dès le lendemain quasiment, Israël s'en prend à l'UNRWA. Alors qu'est-ce que c'est que l'UNRWA ? C'est l'UNRWA, c'est les termes anglais, c'est une agence, comme par hasard, une agence de l'ONU qui, depuis 1947... s'occupe des réfugiés à Gaza et hors de Gaza, je vais préciser. Mais c'est une drôle de coïncidence qu'on s'en prenne à une agence de l'ONU, alors que la CIJ, qui est un organisme de l'ONU, vient de condamner Israël. Bon, comme moi je ne crois pas au hasard, et on est très très nombreux à travers le monde à pas croire au hasard en la matière, c'est une coïncidence.
Peut-être dire que l'argument ou le prétexte, entre guillemets, c'est que l'armée...
Israël... Alors pourquoi ils s'attaquent ? Ils prennent un prétexte, comme quoi il y aurait 12 agents de l'UNRWA cette agence de l'ONU.
Oui,
ils sont 13 000. Ouais. 13 000 agents.
À 13 000 à Gaza, mais à Gaza. 30 000 en tout.
Voilà, hein, 13 000 à Gaza. Donc il y en aurait 12 qui auraient participé, qui auraient des liens avec le Hamas et qui auraient été liés à l'attaque du 7 octobre.
Il y a des preuves?
Aucune.
Ah, non,
oui, d'accord. Aucune preuve. Okay. Aucune preuve.
Donc c'est des allégations.
Pour l'instant, aucune preuve. Alors non seulement
la présomption d'innocence.
Voilà. Il y a aucune preuve, mais en plus de ça, tout de suite, la direction de l'UNRWA a sanctionné les 12 personnes en question en les mettant à l'écart.
Oui, pour lancer une enquête.
Voilà, pour lancer une enquête. Hein. Donc, l'UNRWA ne reste pas les bras ballants. Ouais.
Et c'était pour protéger aussi l'action de l'UNRWA. Ouais. Même si c'est vrai que c'est pas logique de prendre tout de suite une sanction sans avoir des preuves.
Bien sûr.
C'était pour mettre un terme immédiatement à toute discussion. Que cette décision a été prise.
Voilà.
Et je précise que dans un article particulièrement intéressant qui a été publié sur Mediapart de René Bachmann, il est dit que Channel 4 et Sky News ont eu accès au rapport donc israélien mettant en cause ces personnes, et apparemment ça n'est étayé d'aucune preuve.
Alors,
absolument,
on va peut-être découvrir que c'est comme l'histoire des bébés qui ont été massacrés le 7 octobre. En fait, il n'y a aucun bébé qui a été massacré le 7 octobre. Mais cette info a été répandue dans le monde entier pour montrer que les Palestiniens sont des monstres. Ce temps-là, Israël, impunément, tue et organise le génocide. Alors, on va peut-être venir sur... Oui.
Non, on a eu aussi les armes de destruction massive.
Oui.
Dans toutes les guerres, il y a énormément de mensonges qui sont aussi pour pouvoir continuer à faire la guerre. Et j'avais juste une petite remarque que j'avais aussi lue, que les principaux pays et les premiers pays qui ont suspendu cette aide, c'est les États-Unis, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, le Canada, l'Estonie, la France, des pays qui eux-mêmes, dans leur histoire, sont des génocidaires.
Oui.
Donc non, mais c'est l'Allemagne, c'est empressé.
Coloniaux
et génocidaires.
Alors, il faut savoir que Netanyahou n'a jamais caché sa détestation de l'UNRWA. Parce que pourquoi cette détestation de l'UNRWA? Parce que l'UNRWA, en même temps, incarne par son existence la permanence de la question palestinienne et des réfugiés palestiniens. Parce que l'UNRWA s'occupe des réfugiés, pas seulement à Gaza, mais en Cisjordanie, mais aussi au Liban, mais aussi en Syrie, mais aussi en Jordanie. Voilà. Parce qu'en 1948, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de Palestiniens ont été chassés de leurs terres et de leurs maisons. Et ils sont donc devenus des réfugiés. Et il était convenu dans les accords internationaux que ces réfugiés avaient le droit au retour. Vous comprenez ce que ça veut dire pour Israël? C'est-à-dire que si on gomme la question des réfugiés, il n'y a plus de question du droit au retour. Cette question palestinienne est effacée. Donc Netanyahou, lui, veut s'en prendre. Alors, peut-être pour nos auditeurs, faut savoir que aujourd'hui, donc, c'est une protection pour l'UNRWA organise la protection pour 750 000 réfugiés. Et c'est donc une question importante puisque l'UNRWA s'occupe à Gaza en particulier de l'éducation. Les écoles fonctionnent. C'est l'UNRWA qui fait fonctionner les écoles, des soins de santé, des services sociaux, de la microfinance, de l'aide d'urgence, notamment alimentaire, qui est décisive dans une période comme celle-là. C'est plus de 540 000 enfants qui étudient dans les 700 écoles de l'UNRWA. Pour la seule bande de Gaza. Hein.
Oui.
Vous
donc
voyez...
c'est 6 millions de Palestiniens, en fait,
qui
vivent grâce à l'UNRWA.
Voilà, totalement.
Et nous, on les avait rencontrés au Liban.
On voit en quoi c'est absolument scandaleux que ces États occidentaux retirent leur aide. C'est un réel prétexte et c'est un soutien. Alors là, c'est même pas une complicité, c'est un soutien actif à Israël. Eh bien, par l'action, voilà, faut que les citoyens français, les citoyens nancéens, les citoyens de Meurthe-et-Moselle, les citoyens français fassent pression sur notre gouvernement pour que il cesse cette complicité, cette active avec Israël qui est en train de mener ce génocide à Gaza.
Alors donc il faut qu'on reprenne. Alors la France a été un peu hypocrite dans, sur cette question en disant, nombreux points. Mais là, par rapport à l'UNRWA, la France a réagi en disant. Nous n'avions pas prévu d'apporter un financement pour le premier trimestre 2024. Donc, elle n'a pas indiqué qu'elle retirait des financements. En tout cas, on attend de la France un geste fort, comme celui de l'Espagne, qui a augmenté donc sa dotation à l'UNRWA. Même chose pour la Norvège, qui ont rappelé à quel point c'était une agence essentielle pour la survie des Palestiniens.
Alors, une petite précision, c'est que ces derniers jours, le centre d'accueil de l'UNRWA à Gaza, où il y avait 10 000 déplacés qui vivaient, a été attaqué et bombardé.
Par Israël.
Voilà. Alors, pour conclure, nous nous disons où les droits internationaux, où les droits humains sont universels, où ils ne sont pas. Et il ne peut plus y avoir deux poids, deux mesures en matière de droit. Il est juste de condamner la Russie quand elle attaque l'Ukraine, il est juste d'aider l'Ukraine, mais il est scandaleux de ne pas faire la même chose avec les Palestiniens et de ne pas condamner Israël quand il mène cette politique.
Et il faut appeler aux sanctions financières, sanctions de tous ordres à l'égard d'Israël. La Belgique, le Japon ont annoncé, alors ce sont des sociétés, par exemple le Japon c'est une société, la Belgique c'est le gouvernement régional, qui ont décidé de suspendre toute coopération militaire donc avec Israël. Et il y a des procédures aux États-Unis contre Biden pour complicité de génocide. Donc voilà, il y a des tas d'initiatives. Il y a également des ouvriers qui ont pris des initiatives pour bloquer dans certains ports les exportations d'armes à destination d'Israël. Ouais. Donc voilà, il faut que tous et toutes, on se lève pour demander à nos gouvernements d'arrêter ce génocide en cours. Et on a les moyens de le faire en cessant d'aider Israël dans cette guerre terrible.
Et une dernière chose, qu'on ne nous dise pas qu'on serait antisémite quand on demande, quand on condamne Israël pour ses actes. Cela n'a rien à voir. Et il est scandaleux qu'on essaye de faire taire les mouvements, les citoyens qui essaient de défendre le peuple palestinien en les accusant d'antisémitisme. Il n'y a jamais eu d'antisémitisme dans aucune manifestation. Il y en a eu des centaines en France depuis le début des bombardements à Gaza. Aucun propos, aucune personne qui a été arrêtée pour cela. Donc c'est scandaleux, ça c'est destiné à nous faire taire, à faire un amalgame honteux.
Et d'ailleurs, il y a des associations juives qui parlent comme nous, Tzedek, l'UJF, une autre voix juive, etc.
Et en Israël, beaucoup.
Bien sûr. Et aux États-Unis, un tiers des juifs américains, désormais, ne soutiennent plus la politique d'Israël. D'ailleurs, ça va poser quelques problèmes à Biden dans le cadre de sa réélection.
Oui, donc le moment historique est vraiment important parce que c'est vraiment des dizaines de milliers de gens qui sont massacrés sous nos yeux. Et si les gens qui ne font rien devront en répondre devant l'histoire dans pas longtemps, je pense.
Totalement. Et d'ailleurs, à ce propos, on peut très bien, vu les décisions de la CIJ, imaginer que les gouvernements qui sont restés passifs et qui ne veulent pas appliquer les décisions de la CIJ peuvent être à leur tour inquiétés devant la justice.
Tout à fait. Et puis il y a les plaintes, il y a toutes les plaintes à la CPI, Cour pénale internationale, mais on en parlera peut-être une autre fois.
Voilà. Il y aurait beaucoup de choses à dire.
Parce que là, ça se termine. on est déjà à la bourre.
On est bien révoltés. C'est vrai que les auditeurs et auditrices qui veulent agir, n'hésitez pas à rejoindre l'AFPS. Écrivez-leur. Donc c'est AFPS Lorsud@orange.fr. Rejoignez, montrez votre solidarité, venez aux actions de l'AFPS.
Il y a déjà une douzaine de personnes qui l'ont fait en adhérant à l'AFPS depuis le 1er janvier, comme on en avait eu plus d'une trentaine en 2023.
Association France-Palestine Solidarité. Merci beaucoup.
Et on va rendre l'antenne. Merci Brigitte, merci à la maman en Fiat qui est venue tout à l'heure, et merci à Alain de l'AFPS. Au revoir.